Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur dans Parlons des droits humains. Une émission proposée et animée par Martine Monti
et Renaud Broukis,
avec à la réalisation Nancy Zottier. Ce soir, notre thème est l'urgence climatique et la COP28. Depuis 1988, date de la création du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, les scientifiques du monde entier tirent régulièrement la sonnette d'alarme sur l'évolution dramatique du climat et sur les conséquences à moyen et long terme du réchauffement climatique. En 150 ans, la température moyenne de la Terre a presque augmenté de 1,5 degré. Et cette petite augmentation, d'apparence anodine, se traduit pourtant par des changements radicaux et de plus en plus dramatiques en termes de climat. Inondations, tempêtes, sécheresses, fonte des glaciers, augmentation du niveau des mers et des océans, avec comme corollaire la disparition annoncée de milliers d'îles habitées et de nombreux écosystèmes, la réduction de la productivité de l'agriculture et de l'économie mondiale, l'augmentation des pandémies, la promesse de vagues de migration d'une ampleur encore jamais atteinte, et à terme, la perspective de la disparition d'une fraction importante de l'humanité. En cause, la consommation à outrance des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, la déforestation ou encore l'agriculture intensive, pour ne citer que ces exemples. Ces activités humaines génèrent des gaz à effet de serre qui piègent une partie de l'énergie solaire réfléchie par la Terre et transforment cette dernière en un gigantesque et lent autocuiseur. La comparaison est peut-être un peu osée, mais elle n'est pas erronée. Et aujourd'hui, la situation est critique. En 1992, alerté sur la gravité du réchauffement climatique, les États membres de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, se sont dotés d'une convention cadre sur les changements climatiques et organisent régulièrement des conférences, les COP, pour négocier et décider à l'échelle mondiale des mesures à mettre en place pour limiter le réchauffement climatique. Dans les COP, les lobbies industriels et financiers, opposés à la réduction de l'utilisation des énergies fossiles, y affrontent les lobbies environnementalistes qui, eux, demandent une réduction radicale des émissions de gaz à effet de serre. Fin novembre, début décembre dernier, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, s'est tenue la 28e COP. Les décisions qui ont été prises constituent une avancée significative et un tour de force politique pour les uns et sont environnementalement tout à fait insuffisantes pour les autres. Aussi, pour faire un point sur l'urgence climatique, sur les résultats de la dernière COP et sur les moyens d'action à mettre en œuvre pour préserver le climat, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir trois représentants d'ONG engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique, avec l'IRA, d'Extinction Rebellion.
Bonsoir.
Yann Salagnon, d'Alternativa.
Bonsoir.
Et Luc Denner, de Scientifique en Rébellion.
Bonsoir.
Voilà, et avant de rentrer dans l'échange avec nos invités, nous allons prendre le temps pour écouter une pause musicale, le duo Tange Coup Droit, avant de reprendre la suite.
Tout d'abord, avant de commencer cette émission, cela fait 10 ans que Parlons des droits humains existe et nous souhaitions remercier la direction d'Agora Côte d'Azur, la fidélité de nos auditeurs et la qualité de nos invités. Voilà, donc aujourd'hui nous avons effectivement l'IRA d'Extinction Rebellion, qu'on va appeler XR, Yann Salagnon d'Alternatiba et Luc Denner de Scientifiques en Rébellion. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter vos organisations qui ont des buts apparemment similaires, des moyens d'action parfois différents, des implantations différentes? Yann, est-ce que vous pouvez commencer? Alternatiba.
Oui, donc Alternatiba, c'est un mouvement national qui a plus de 120 groupes locaux. Je suis plus à jour du chiffre, mais c'est dans ces eaux-là. Donc voilà, mouvement national, tous les groupes locaux sont indépendants. Il y en a dans plein de villes de France, les grandes villes, les petites villes. Il y en a à Haïti, il y en a même en Afrique, de l'Ouest un petit peu. Voilà, donc nous, on fait partie du groupe local 06. Et en fait, chaque groupe local a une structure indépendante. C'est une association, avec des membres, un bureau, etc. Et puis, on a créé une deuxième association qui s'appelle La Base, à Nice, qui, pour faire un lieu dédié à un lieu interassociatif dédié à la transition écologique et sociale. Donc en fait, les deux choses qui nous mènent dans le 06 actuellement, qui nous occupent, on va dire, c'est Alternatiba et La Base à Nice. Voilà.
Merci. Lyra ?
Oui, alors Extinction Rebellion ou XR, ce n'est pas une association, pour le coup. C'est un mouvement de désobéissance civile, donc c'est un mouvement citoyen. C'est-à-dire que contrairement à Alternatiba, on n'a pas de bureau, on n'a pas de hiérarchie. C'est un mouvement complètement décentralisé et horizontal, qui est international, pour le coup, qui s'est monté en Angleterre en 2018. Et en fait, l'objectif, c'est de penser de nouveaux modes d'action différents face en fait à l'inaction qu'on voyait des manifestations, des marches. Donc c'est une réflexion à la base donc en Angleterre qui s'est ensuite en 2018 exportée un peu partout. Donc aujourd'hui, il est présent dans quasiment, je crois, 120 pays. Et en France, c'est arrivé en 2019. On va avoir 5 ans bientôt en France. En mars 2019, on a fait notre première déclaration de rébellion en mars 2019 à Paris. Et voilà, et donc c'est un mouvement qui s'occupe des questions écologiques et sociales, et surtout qui s'est un peu donné comme objectif de faire de l'action directe pour faire émerger ces sujets au sein de la société civile.
Donc rébellion, vous le définiriez comment ? Est-ce que ça peut être révolte, ça peut être indignation ? Comment vous le ressentez ?
On dit souvent que on aime bien dire voilà, face à en fait quand l'espoir meurt, l'action commence. Et c'est un cri du cœur qui veut dire face à l'extinction du vivant sous toutes ses formes, face à la sixième extinction de masse qui a commencé, il est grand temps de se rebeller. Et la rébellion n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et c'est aussi pour montrer que la rébellion, elle peut être belle, elle peut être joyeuse, elle peut être musicale, elle peut être artistique, elle peut être scientifique, elle peut être et surtout elle peut venir en fait du peuple et des citoyens et des citoyennes. Et c'est ce qui était important, et je pense que c'est un peu ce qui porte le mouvement. Et aujourd'hui, tous les mouvements de désobéissance civile émergent à partir de la société civile. C'est pour ça qu'on veut, c'est dans le mot, on va dire. Et voilà, c'est la rébellion, c'est pour en fait protéger, parce que l'idée, on ne peut pas aimer et protéger sans en fait se rebeller. Et c'est un peu les deux mots clés qui sont dans notre ADN chez Extinction Rebellion, en tout cas.
Merci de ces précisions. Et donc une émanation, je pense, de XR, c'est Scientifiques en Rébellion.
Oui, absolument. Donc ça a démarré en Angleterre. En France, ça date de l'appel des 1000 scientifiques qui est paru dans le monde en 2020. Et à ce moment-là, Scientifiques en Rébellion est né en France, mais il y a plein de Scientifiques Rebellion en Europe et dans le monde. Il y en a en Ouganda, un peu partout. La spécificité, c'est d'abord qu'on est des scientifiques et que pour nous la rébellion, elle est aussi une rébellion par rapport au fait que les scientifiques constatent qu'ils ont été relativement peu écoutés par rapport aux aspects climatiques et par rapport aux aspects de l'extinction de la sixième extinction de masse, pardon. Et donc l'idée, c'est de dire, on est obligé de sortir de nos laboratoires parce que la manière dont on a de communiquer ne suffit plus. Et on est obligé de sortir et de s'allier avec un certain nombre de groupes pour rentrer dans la désobéissance civile, de telle sorte qu'on ait un impact, d'une part, sur les citoyens pour leur dire, on est en train de vivre des choses et vous n'êtes pas vraiment complètement au courant. Et d'autre part, pour dire, on doit sortir de notre rôle purement scientifique en publiant des papiers, en faisant des études, et rentrer dans un rôle beaucoup plus politique. Et cette désobéissance civile, elle est là vraiment pour faire un signal politique vers les hommes politiques et le politique en tant que tel, mais aussi vers les citoyens, et pour dire aux citoyens qu'ils ont eux aussi ce rôle politique à prendre.
Donc en fait, vous vous appuyez sur des expertises pour aider les citoyens à prendre conscience de la situation.
Alors, en partie, c'est-à-dire qu'effectivement, on va alerter via des conférences impromptues, ce genre de choses-là, mais on va aussi s'associer, par exemple, à XR, Alternativa, Let's Generation, etc., qu'il y a eu en Allemagne, pour faire des actions qui, elles, sont des actions pas particulièrement scientifiques, mais où on est là en tant que, je dirais presque, caution scientifique, en disant ce que Let's Generation dit, c'est pas juste une élucubration de militants écologistes. C'est quelque chose qui est extrêmement documenté scientifiquement. Et donc, on a ce rôle-là, qui est un rôle un peu compliqué, mais de caution scientifique.
Merci beaucoup. Je crois que c'est un peu plus clair, la vision de vos mouvements et organisations. J'aimerais qu'on parte, effectivement, avant d'arriver à la COP, d'un état des lieux. J'attire l'attention de nos auditeurs sur le fait que les rapports du GIEC donnent lieu à des résumés. Ces résumés sont disponibles sur les sites gouvernementaux et sont accessibles aux communs des mortels qui ne sont pas scientifiques. Parce que souvent, on entend des communications, on a pris le temps, en préparant l'émission, d'en lire. C'est très intéressant et c'est tout à fait abordable. Alors, le climat environnemental actuellement, on en est où? Avant d'aborder ce qu'a évoqué la COP, parce qu'on attend effectivement émissions de gaz à effet de serre, ça continue à augmenter, la hausse des températures s'est accentuée, les écosystèmes sont de plus en plus vulnérables, les impacts vont s'intensifier. Qu'en est-il exactement?
Alors, des grands chiffres, les accords de Paris, l'objectif, c'était 1,5 degré ou 2 degrés de température globale moyenne de la Terre. On en est à peu près à 1,2 degré, 1,3 degré d'augmentation globale. Donc, ça veut dire que pour avoir rentré dans ces objectifs, il nous resterait 0,2, 0,3 degrés. Au niveau de la France, c'est plutôt 1,7 degré, plutôt que 1,2 degré d'augmentation. Au niveau de la région PACA, ça veut dire quoi? Ça veut dire des augmentations jusqu'à 4 degrés, 3, 4 degrés d'augmentation de température. Ça veut dire quoi concrètement à l'horizon 2050, c'est-à-dire quand même assez rapidement? Des augmentations de température importantes, donc ça veut dire x3, x4 au niveau des vagues de chaleur telles qu'on les a connues cet été-ci. On est quand même très près de la mer, ça veut dire à moins de 10 km d'ici sur la Croisette, la mer qui rentre sur la Croisette. Ça veut dire par rapport à l'aéroport de Nice, sur lequel on fait une extension, malheureusement pas une extinction. Ça veut dire que les pistes sont sous eau pendant plusieurs jours par an. Donc ça veut dire un impact direct relativement important. Par rapport à la perte de l'eau potable qu'on a eue là au mois de décembre l'an passé, ça veut dire que le bec du Broc, pardon, c'est comme ça qu'on l'appelle, il y a plus d'eau et c'est un gros problème pour les villages. Bon, par exemple, cet été-ci, Montauroux, il a fallu ramener de l'eau. Donc, tous ces effets-là sont des effets qui sont en augmentation. Et pour l'instant, l'augmentation ne diminue pas. Mais on le sait, scientifiquement, on sait que ce qu'on a maintenant, c'est dit pour les 20 années à venir. Donc, ce qu'on est en train de faire là, nous, de nous battre pour diminuer l'émission des gaz à effet de serre, entre autres, c'est quelque chose qui va avoir un effet d'ici 10, 15, 20 ans. Et c'est pour ça qu'on est en train de se battre.
Accord à côté sur. Lyra, par rapport au constat, quelques points à rajouter?
Oui, alors, j'ai pas autant de chiffres, on va dire, précis, mais en fait, de mon point de vue en tant que citoyenne, même si j'ai une formation en ingénierie écologique, d'un point de vue de citoyen, ce que j'aime bien montrer, c'est qu'on ne comprend pas en fait le systémisme du réchauffement climatique et du dérèglement. Quand on parle de 1,5 degré, ça peut paraître un peu flou, On a des gens qui confondent encore météo et climat. C'est pas parce qu'il ne fait froid en hiver qu'il n'y a pas un réchauffement global. Et j'aime bien donner comme exemple le corps humain. Le corps humain est un écosystème. Vous avez des bactéries, enfin, plein de paramètres rentrent en compte dans votre corps. Et votre température, qui est à 37 degrés en moyenne, hein, à peu près, augmentez la température de votre corps de 2 degrés. Vous avez de la fièvre, vous êtes malade. Donc là, on se rend compte que 2 degrés, c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut comprendre et que les conséquences sont énormes. Dites à n'importe qui, vous avez 42 fièvres, les gens vont s'inquiéter. Pourtant, ce n'est que 3 degrés. Et donc, je trouve ça intéressant en fait, d'expliquer que c'est systémique. L'extinction des espèces, ce n'est pas juste tel animal ou telle plante qui est en train de disparaître. C'est une interconnexion entre tous les êtres vivants. Et c'est pour ça que quand on parle d'extinction, de sixième extinction de masse, on s'inclut aussi, il ne faut pas avoir une vision que anthropocentrée de l'extinction. Ça nous concerne tous et toutes. Et nous, en fait, et aujourd'hui, tous les rapports, le GIEC, les rapports scientifiques, expliquent que ces causes sont d'origine humaine. On ne peut pas nier que les causes sont d'origine humaine. Une espèce en moyenne s'éteignait à l'époque entre 5 à 10 millions d'années. Donc on est sur un temps très très long à l'échelle, enfin même à l'échelle humaine, c'est difficilement compréhensible. Mais depuis les années 1900, ce taux d'extinction, il a augmenté de 100, je crois, c'est un fois 100. Donc c'est énorme. Je ne sais pas si à l'échelle de l'humanité, on peut se rendre compte parce qu'on n'est pas sur un temps, les temps géologiques ne sont pas du tout les mêmes que les temps humains. Mais voilà, pour montrer, voilà, imaginez juste votre corps humain qui augmente de 2 degrés et toutes les conséquences que ça peut avoir sur le dérèglement de votre corps. Et bien en fait, le climat, c'est un peu pareil. Enfin, la planète, c'est un peu pareil. Et donc, c'est pour ça que c'est important de remettre dans un contexte global et ne pas que voir, en effet, un réchauffement de 1 degré ou, oui, il y a une tempête, mais c'est beaucoup plus complexe que ça.
Oui, c'est pas sur du conjoncturel, ça devient vraiment du structurel, du systémique. Yann, un commentaire ?
Voilà, donc bah en fait, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais du coup, je cite juste quelques éléments qui sont cités par Cyril Dion dans son livre Petit manuel de résistance contemporaine, où il résume bien au début la situation. Nous sommes déjà à 1,2 degré d'augmentation, comme ça a été dit. La trajectoire actuelle nous emmène plutôt vers 4 degrés de réchauffement en 2100 et potentiellement à 8 degrés, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les scientifiques le disent eux-mêmes, ils sont toujours surpris que l'augmentation soit plus élevée que leurs pires prévisions. C'est ce qu'on constate ces dernières années. Donc, en fait, c'est multiplié par deux en général. Donc là, voilà. Et puis, il dit, par exemple, que les scénarios internes des pétroliers Shell et BP prévoient une augmentation de la température moyenne du globe de 5 degrés en 2050. Donc, si eux, ils prévoient ça dans leur rapport interne, c'est très probablement que eux, ils se voient souvent moins la face que les politiques. Parce qu'ils n'ont pas d'enjeu par rapport à ça. Enfin, en tout cas, pas en interne. Donc, voilà. Donc, en fait, bah, en gros, ce qui est dur à faire comprendre... je dirais à tout le monde, c'est qu'on vit encore à peu près comme on vivait il y a 20 ou 40 ans, hein, avec nos voitures, notre consommation de pétrole, on fête Noël, etc. Mais pour autant, il y a déjà les signes annonciateurs de la catastrophe qui sont là. Et déjà plein d'éléments. Ici, dans les Alpes-Maritimes, on pourrait juste citer la tempête Alex, voilà, qui a été un fait majeur, qui a dévasté quand même deux vallées. Mais ça, c'est juste, tout le monde le sait, les scientifiques l'annoncent depuis des décennies, ces épisodes sont amenés à se répéter, à devenir récurrents avec le changement climatique. Donc ça, c'est juste un exemple, il y en a plein d'autres qui sont...
Oui, justement, de la biodiversité sur les exemples, sur la vie humaine, parce que je pense que les gens commencent à comprendre effectivement le dérèglement climatique, mais ça a des incidences sur la vie humaine. Vous parlez effectivement des catastrophes, mais il peut y en avoir d'autres. Et les inégalités face à de certaines populations dans certaines régions. Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur les conséquences que vont subir les humains ? Vous avez parlé des catastrophes naturelles et des problèmes d'alimentation, d'accès à l'eau. Est-ce qu'on peut dresser un petit peu un effet des conséquences concrètes ? On en a évoqué certaines. Et surtout les inégalités selon les zones géographiques et selon les revenus, puisqu'en fait, on estime aussi que 35 à 45% des émissions à gaz à effet de serre sont liées à la consommation des 10% les foyers aux plus hauts revenus. Donc il y a une double inégalité entre les responsables et ceux qui subissent les conséquences. J'aimerais bien qu'on puisse un peu parler de ces points-là. Lyra.
Oui, je vais en revenir à justement le côté écosystémique et systémique. On a du mal peut-être on parle de conséquences directes. Donc, dans certains pays, l'été dernier, je ne sais pas si vous avez vu, mais les gens se sont tués pour de l'eau au Pakistan, notamment Donc en fait, il y a des conséquences qui vont arriver sur, ça va être de la guerre, c'est l'accès aux ressources notamment, parce que forcément quand on n'a plus accès aux ressources, on se bat pour des territoires et on se bat pour des ressources. On va dire ça, c'est la vision vraiment très pessimiste et on va dire éloignée mais proche de nous. En fait, ça peut être tout simplement, on va donner un exemple, encore une fois, par exemple, je veux acheter un sandwich. Mon sandwich, il est fabriqué à partir de blé, qui n'est pas forcément fait en France, qui va être fait, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, par exemple. Donc, en fait, je vais avoir pas en fait, de blé pour mon sandwich. Alors, la viande, n'en parlons pas. Moi, je ne mange pas de viande, mais n'en parlons pas de ça. Mais en fait, s'il y a un cycle qui est déréglé, par exemple, le cycle de l'eau est déréglé, je vais avoir des problèmes pour arroser mon champ. Donc, je vais avoir des problèmes pour avoir des récoltes. Donc, je ne vais pas pouvoir faire mon blé. Le conditionnement de mon sandwich dans des usines, il va utiliser de l'énergie. Cette énergie, elle est encore aujourd'hui majoritairement propulsée par des énergies fossiles. C'est l'exemple du papillon, du battement d'aile du papillon qui fait naître une tornade à l'autre bout du monde. Il est évidemment très, très, je vais dire accurate, mais comment on dit, parlant, voilà, pour le climat. Et en fait, ce côté écosystémique, je pense qu'on a du mal à s'en rendre compte, mais quand on a eu, par exemple, l'exemple de la pandémie de Covid, on s'est bien rendu compte à quel point on était dépendant au niveau mondial. Les gens ont connu des restrictions au niveau de leurs ressources. Alors, est-ce qu'elles sont essentielles? Est-ce qu'elles sont superficielles? C'est un autre débat. Mais les gens se sont rués pour avoir du papier toilette. Donc on voit bien en fait que ce qui se passe à l'autre bout du monde a un impact et ça va nous concerner directement nos modes de transport. Si on n'a plus de pétrole dans une ville ou dans une région comme ici où on est très dépendant de la voiture, comment on va se déplacer? Comment on va emmener nos enfants à l'école? Comment en fait je vais pouvoir aller faire mes courses si j'habite dans une zone un peu isolée qui en plus a été touchée par une tempête et donc qui est plus accessible? Et en fait, voilà, c'est de remettre un peu le côté systémique pour comprendre que en fait, ça nous touche dans tous nos déplacements parce qu'en fait, on est dépendant aujourd'hui de l'énergie pour survivre, déjà en tant qu'être vivant, l'énergie du soleil, l'énergie des plantes. Enfin, tout être vivant consomme et dépense de l'énergie. Et aujourd'hui, cette énergie-là, elle est fossile pour nous.
Merci, je crois qu'on a bien compris l'interdépendance de l'ensemble de ces points. On va évoquer la COP28, hein, puisque c'est quand même une actualité relativement récente. Donc les COP, c'est des conférences hein, qui sont effectivement auxquelles participent les États qui ont signé un ensemble de pays alertés sur la gravité du réchauffement climatique. Donc les enjeux de la COP28 qui a eu lieu à Dubaï étaient nombreux. C'était de dresser un premier bilan mondial des projets suite à l'accord de Paris de 2015. Donc limiter effectivement le recours à l'énergie fossile, privilégier les énergies renouvelables, trouver de l'argent, parce qu'en fait ça demande beaucoup de fonds, et justement instaurer aussi un fonds vis-à-vis des pays qui n'ont pas les moyens de financer les évolutions. Donc est-ce qu'on peut parler des résultats de la COP28 qui sont mitigés, on va dire? Donc peut-être Lira,
brièvement, parce que je pense qu'on a tous plus ou moins les mêmes informations. Mm-hmm. Et voilà, mais il y avait des enjeux clairement qui ont été très importants. Et aujourd'hui, on parlera peut-être après de la question des lobbies, mais je pense que c'est une COP qui était particulièrement difficile dans le contexte, parce que dans un pays très dépendant au pétrole, parce que présidé par quelqu'un qui dirige une compagnie pétrolière. Mais en tout cas, il y avait des enjeux et en effet, le fonds de dotation qui a été proposé justement pour les... Je pense que l'enjeu majeur, c'était justement les pays du Sud, c'est-à-dire les pays qui aujourd'hui sont les plus touchés face au dérèglement climatique et qui subissent déjà de plein fouet, mais qui ne sont pas responsables. Et que nous, occidentaux, en fait, on fait subir une pression sur ces pays-là pour diverses raisons, mais qu'on avait et que c'était un enjeu très fort, notamment pour ces personnes-là. Ensuite, je peux laisser mes compagnons...
Oui, ben donc la COP, elle était surtout, il y avait deux grands points. Le deuxième, le plus important, c'était les énergies fossiles. Et le premier, c'était aussi cette histoire de pertes et dommages là, pour les pays, enfin le financement accordé par les pays, on va dire les plus riches, aux pays les plus touchés par l'échauffement climatique. Donc ça, ça a plutôt été une victoire, puisqu'il a été traité dès le début et il a été voté, signé. Enfin, donc il y a des
avec des engagements de financement voilà, des États occidentaux.
Alors on peut probablement se dire que c'est pas assez, mais ce qui est probablement ce qu'ont répondu les ONG, j'ai pas trop regardé de ce côté-là. Mais bon, voilà, il y a quand même quelque chose qui a été signé et fait. Il faut savoir quand même que ça. Oui, je lisais un livre d'Hugo Viel, un jeune militant climat qui a participé à plusieurs COP, et il explique comment, dans son livre, à force d'évoquer un sujet, de militer face aux preneurs de décision, aux gens qui débattent, enfin aux diplomates en gros des différents pays, ils ont fait évoluer le débat, et c'était peut-être pas par hasard si ça s'est avéré qu'à la dernière COP, c'était à l'ordre du jour, quoi, en premier. Donc en fait, c'est tout ça pour dire que le militantisme et les actions des ONG a un rôle très important. Et en fait, bah, les COP, c'est traditionnellement c'est un lieu de débat entre les pays de l'ONU, c'est-à-dire les 195 pays de l'ONU. Donc c'est quand même le lieu le plus important, enfin en tout cas qui regroupe le plus d'acteurs internationaux au niveau mondial, au sujet de l'environnement. Mais c'est aussi le lieu où les ONG et les lobbyistes de tous les bords d'ailleurs sont là, sont présents, essayent de faire passer leur message au maximum. Et là, ça a quand même pas mal marché. Puisque ben voilà, il y a eu ça, il y a eu ce premier les pertes et dommages qui ont été votés, et puis l'accord sur les énergies fossiles, ça c'est une autre affaire. Mais enfin, et pour la première fois, tout le monde a quand même salué que pour la première fois, il y avait dans le texte qu'il fallait s'acheminer vers une transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques. Alors bon, il y a le mot transition, il y a le mot hors, il y a le mot énergie fossile. Après, évidemment, 135 pays auraient voulu sur 190 que les mots soient plus forts, mais c'est déjà, enfin on peut dire quand même que comme à toutes les COP, il y a des avancées, même si les ONG voudraient qu'elles soient beaucoup plus rapides et plus fortes. Voilà.
On va conclure cette première partie d'émission sur cet aspect positif, et puis nous évoquerons ensuite effectivement la suite des conséquences de la COP et les campagnes et vos moyens d'action, et nous prenons le temps d'une pause musicale avec Cagoule Zapatiste.
Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travail.
Partout je le vois que la nature agonise, les politiciens disent qu'ils trouvent ça horrible, donc ils prennent la pose aux côtés du cas, ils craonnent, puis signent les contrats qui vont raser l'Amazonie. Dans les médias, le journaliste sceptique, face à l'évidence du bordel climatique, quand la quantité de nos déchets plastiques forme un nouveau continent dans l'océan Pacifique. La nature se pollue, mais faut voir ce qu'on y jette, obsolescence est programmée, les métaux rares sont pillés. 23 ans après, ils s'entassent dans des décharges au Niger. Ils ont privatisé l'eau, ils privatisent les terres. C'est Bayer, Monsanto, c'est Coca, c'est Nestlé. Foutre à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un zadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Foutre à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un zadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste et libertaire. Foutre à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un zadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Foutre à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un zadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste. Résiste comme les indigènes d'Équateur face à l'industrie pétrolière. Résiste comme les paysans du Sahel face à l'avancée du désert. Repoisons les forêts comme en Gary Mataille. Seul le fait de ne pas y croire fera qu'on sera bataille. Pour la victoire, il faut livrer bataille avec la détermination d'un guerrier Maasai. Monter des autonomies dans des politiques, leur attitude hautaine. Viens donc voir ce qui se passe rien qu'au sud de la Haute-Vienne. Je ne vois de solution que dans la décroissance. L'autonomie, le boycott des actes et pas que d'achat. La problématique est globale, révolution mondiale. Foutre à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un zadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Foutre à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un zadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste et libertaire. Foutre à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un zadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Foutre à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un zadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste et libertaire.
Ils sont dans les structures capitalistes orientées vers la logique du profit maximum et le plus rapidement possible, qui sont à l'origine des dérèglements à la fois socio-écologiques que nous constatons aujourd'hui et à l'origine du fameux réchauffement climatique.
Pour se bouger pour maintenir que le rapport de force. Plaquer le bloc, Pour se bouger pour maintenir que le rapport de force.
Mes deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur.
Si tu trouves que j'ai des propos violents, c'est que t'es jamais sorti de manif, le visage sanguinolent. Faut se bouger pour maintenir que le rapport de force. Plaquer le bloc, pluie de cocktails comme en Corse. Elle est pas loin l'époque où la France a beauté le Rainbow Warrior. Chez les frères écolo radicaux, rien que cette année c'est 164 morts.
Eh bien, nous poursuivons le thème de notre émission Parlons des droits humains, consacré ce soir au thème Urgence climatique, COP28, bilan et perspective avec l'IRA, d'Extinction Rebellion, Yann Salagnon d'Alternatiba, et Luc Denaire, des scientifiques en rébellion. Donc on va reprendre sur ce que vous disiez, Yann, par rapport au bilan de cette COP28. Je repense à un exemple d'interventions qui ont été faites sur France Inter juste à la fin de la COP, où on avait deux personnes qui discutaient, donc François Gemmen, qui est un politologue belge qui assistait à la COP, et qui disait que politiquement, cette COP, les résultats, les décisions qui avaient été prises étaient un tour de force, notamment par rapport à cette entrée en transition pour diminuer l'utilisation des énergies fossiles. Et puis Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue française, qui disait que environnementalement parlant, c'était tout à fait insuffisant. Donc, quel est votre sentiment par rapport à ça, Luc ?
Alors, c'est un tour de force politique. Moi, j'ai une lecture assez personnelle de cette COP28. Elle a lieu dans un pays pétrolier, et ce pays pétrolier n'avait qu'une solution, c'est de faire en sorte que cette COP soit une réussite. Contrairement à ce que disait François Gemmen, je ne crois pas que ce soit un tour de force, c'est simplement une conséquence assez naturelle de ce qui s'est passé. Malgré tout, ce sont des avancées importantes. Ceci dit, scientifique en rébellion, une de nos raisons d'être, c'est de dire qu'il y a des choses qui avancent, mais qu'elles n'avancent vraiment pas suffisamment vite. Et c'est ce qu'on constate à la suite de toutes les COP qui ont eu lieu, la COP26, la COP28, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que Scientifique en Rébellion a fait une COP alternative à Bordeaux pendant 3 jours, du 30 novembre au 3 décembre, avec un certain nombre d'actions un peu différentes. Par exemple, une action de réhabillage, on va dire, de la banque Crédit Agricole, qui n'est pas connue pour être très anti-fossile, avec un certain nombre de conférences pour expliquer ce qui se passe, avec un certain nombre de happenings, on va dire, c'est pour prendre un terme qui montre que j'ai un certain âge, comme le procès Total Energy, où il a été mis en théâtre et avec un aspect aussi artistique sur ces aspects-là, comme toute une journée consacrée aux luttes locales et aux imaginaires possibles, parce que très clairement, par rapport à ce qui nous attend et à la modification qu'on doit faire sur nos sociétés, et l'IRA parlait d'aspects systémiques, il y a un aspect systémique pas uniquement sur les aspects physiques, mais sur nous sommes, nous les hommes, en tout cas un certain nombre de personnes, responsable de ce qui se passe au niveau des modifications du climat et des modifications de la biodiversité. Pourquoi est-ce que c'est fait ? Parce qu'on est depuis, on va dire, quelques centaines d'années sur un imaginaire économique qui fait qu'on est en train de manger toutes nos ressources. Il faut qu'on puisse changer notre imaginaire en disant, pour prendre des exemples locaux, le top, c'est pas nécessairement de rouler avec une grosse bagnole, contrairement à ce que certains disent, mais ça peut être d'autres choses qui nous font vivre. En ce qui me concerne, par exemple, de façon très personnelle, c'est la musique. Je suis très mauvais musicien, mais en même temps, c'est ce genre de truc-là qui nous fait travailler ensemble et qui nous fait vivre ensemble. Et donc, je crois que ces aspects-là sont vraiment très importants par rapport à
Alors, pour prendre justement quelques exemples parmi les décisions qui ont été prises ou annoncées, lorsqu'il parle de baisser de 43% la consommation d'énergie fossile d'ici 2030, est-ce que ça vous paraît réaliste ? Actuellement, vu le système dans lequel on fonctionne ?
prend ce qui avait été fait sur la COP26, donc c'est les engagements des États. Quand on voit ce que font les engagements des États à l'horizon 2080, on arrive quand même à plus 2,5-3 degrés. Et quand on voit ce qui a été fait par les États, on voit qu'on monte plutôt à 4 degrés. Donc, la réponse, elle va être ambiguë, ou en tout cas à deux aspects. Ces objectifs-là sont tenables, scientifiquement on peut le montrer,
mais
si on va à fond politiquement. Et notre rôle en tant que scientifique en rébellion, il est de dire ça, de dire aux personnes, tout ce que vous faites est vraiment très important, faites-le, mais c'est vous qui avez faire bouger les politiques, c'est pas les politiques qui vont vous faire bouger, vous. Donc il faut pas attendre du politique qui nous donne la solution, il n'y a pas de vraie solution d'ailleurs, mais qui donne les éléments de solution. Il faut que nous, en tant que citoyens, et notre rôle de scientifique en rébellion, c'est aussi celui-là, de dire aux citoyens, vous êtes capables, vous, de faire bouger vos hommes politiques, de faire bouger vos associations, etc., pour aller dans la bonne direction. Et si on fait ça, alors oui, ça, c'est atteignable.
On va en venir aux moyens d'action que vous avez chacun. Il y a juste un point sur lequel j'aimerais avoir votre avis. C'est notamment le fait qu'il y a une vingtaine de pays qui, au moment de la COP, ont poussé pour doubler la production d'énergie nucléaire. Quelle est votre position par rapport à ça? Peut-être, vous avez
oui,
un point.
Oui, alors, sur l'aspect nucléaire, force est de constater que c'est une énergie décarbonée. Par contre, doubler en combien de temps? On a à peu près, alors selon les chiffres, entre 6 et 15 ans pour réagir. Si c'est pour faire des nouvelles centrales nucléaires, on n'a pas nécessairement le temps pour le faire. Peut-être que sur le temps long, c'est pas nécessairement une mauvaise idée. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le débat des déchets, etc. C'est très compliqué et on rentre dans un terrain un peu
miné, effectivement.
Voilà, merci.
Yann, un commentaire supplémentaire?
Non, bah même constat que Luc, ça pourrait prendre de 1 à 10 émissions, je pense, juste parler du nucléaire. Et c'est un débat assez compliqué, même au sein des mouvements écologistes. Donc voilà, il y a... bon, le nucléaire, il a de ses défauts, quoi. Il pollue quand même beaucoup. C'est le plus gros consommateur d'eau de Javel en France, j'avais entendu il y a quelques temps. C'est les centrales nucléaires. Elles rebalancent des choses dans les cours d'eau. Et puis il y a les déchets. Donc,
bref, j'entends ce que vous dites, on fera une émission rien que sur ce sujet-là dans le futur. J'aimerais en venir maintenant aux campagnes que vous menez, aux moyens d'action que vous utilisez. Vous l'avez dit tout à l'heure, au moment de la COP28, il y a eu une opposition de lobby. Hein, les pro-utilisation d'énergie fossile et les anti, donc les ONG, les mouvements environnementalistes. Quels moyens de pression, vous, ONG, mouvement, vous avez pour essayer de faire fléchir les gouvernements de façon efficace, Lyra?
Extinction Rebellion est par définition donc un mouvement de désobéissance civile. Donc l'idée, c'est d'utiliser des moyens d'action qui ne sont pas forcément légaux, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas légitimes, mais en tout cas qui ne sont pas forcément légaux, comme de l'occupation, de l'intrusion sur certains sites, des manifestations non déclarées. Différentes choses donc qui rentrent pas dans le cadre légal mais qui sont encore une fois pas forcément illégitimes pour en fait l'idée c'est de faire adhérer tellement de personnes au niveau citoyen-citoyenne que les politiques n'ont plus le choix d'écouter. Comme l'a très bien dit Luc, les scientifiques ils crient depuis des années, ils alertent depuis des années. Et nous, ce qu'on veut déjà, c'est dire écoutez les scientifiques, écoutez les rapports. Vous les avez, les solutions. Elles ont été proposées déjà. On les a. On sait ce qu'il faut faire. Sauf que aujourd'hui, on n'écoute pas parce qu'il y a d'autres préoccupations qui sont rentrées en jeu. Et l'occupation, donc la désobéissance civile, l'occupation, en fait, reprendre la place, notre place de citoyens, citoyennes dans la rue, auprès des institutions. Et faire entendre notre voix. Je peux parler par exemple, une des revendications d'Extinction Rebellion, c'est la création d'assemblées citoyennes sur les questions climatiques. C'est-à-dire que l'idée, aujourd'hui, on trouve que la démocratie, elle est biaisée, que la démocratie directe n'est pas forcément quelque chose qui est fait aujourd'hui dans notre pays. Et les assemblées citoyennes, c'est prendre des gens et les faire discuter sur un sujet en leur donnant les connaissances et les compétences nécessaires pour en discuter, afin qu'ils puissent proposer des solutions. On fait ça, par exemple, sur des occupations. La dernière grosse occupation, par exemple, donc c'était l'inévitable rébellion à Paris. On a créé des espaces de débat où des scientifiques, des personnes expertes venaient expliquer aux gens, et après, on laissait les gens débattre. Et bien, en fait, si des mouvements comme Extinction Rebellion n'avaient pas proposé ce genre de choses, je ne sais pas si on aurait eu la Convention citoyenne pour le climat, par exemple. Je pense que ce genre de choses... Voilà. Donc, en fait, il y a eu une écoute. Après, qu'est-ce qu'on en a fait de la Convention ? C'est un autre sujet, encore une fois. Mais, en tout cas, c'est nécessaire. Par contre, je pense que les moyens d'action classiques, on parlait des manifestations, des pétitions, on ne va pas dire qu'elles sont inutiles, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ce genre d'action et dans ce genre de mode d'action, mais elles ne sont pas suffisantes. Donc la complémentarité de l'action directe, aujourd'hui, du sabotage, de l'occupation, de l'intrusion, des conférences actions, la conférence manifestation que font par exemple les scientifiques en Berlion, sont complémentaires et nécessaires. Et c'est la complémentarité des actions. En fait, si chacun, à son échelle, on va faire, donc un tel ou une telle va signer une pétition, un tel ou une telle va participer à une manifestation, un tel ou une telle va occuper un site ou désarmer la Farge, pour ne citer que cet exemple.
Cet exemple-là.
Voilà. Et bien en fait, ça veut dire que toute la société trouve son moyen d'expression. Et que si toute la société trouve son moyen d'expression, peut-être que les politiques vont commencer à écouter.
Alors, vous avez parlé de désobéissance civile. J'aimerais qu'on revienne un peu sur cette notion qui est assez générale, que tout le monde connaît, mais dont on ne connaît pas peut-être très exactement le contour. Lorsqu'on lit la définition de la désobéissance civile, on peut lire que celle-ci est le refus assumé et public de se soumettre à une loi, un règlement, une organisation ou à un pouvoir jugé inique par ceux qu'ils contestent, tout en faisant de ce refus une arme de combat pacifique. Et j'aimerais revenir sur ce côté pacifique, sachant que lorsque l'on résiste pacifiquement, on évite la violence, on évite de s'en prendre aux biens et aux personnes, en tout cas aux personnes, pas forcément aux biens. Et c'est là que peut-être que vous avez certaines nuances de jugement différents. Yann, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, déjà qu'il faut vraiment faire attention aux procès qui sont faits aux associations dans certains médias. Pas tous, heureusement. Enfin, à l'action de désobéissance civile, parce que c'est quand même des actions gentilles et bienveillantes. Il y a jamais d'atteinte aux personnes. Il y a éventuellement un petit peu de casse matérielle. Par exemple, les soulèvements de la terre, où ils parlent de désarmement. Quand ils démontent une pompe, ou ils enlèvent trois boulons à une pompe, ou ils crèvent une bâche d'une méga bassine. Enfin, voilà, ça reste quand même très modéré. Et c'est souvent pas du tout à la hauteur du traitement médiatique qui en est fait. Donc ça, faut en avoir conscience. Voilà, après, bah, c'est l'histoire de la légitimité, de ce qui est légal et de ce qui est légitime. Et là, il n'y a pas longtemps, je relisais un petit texte sur Gisèle Halimi, voilà, une grande féministe très connue en France, hein, à l'égal de Simone de Beauvoir ou de... Comment, mince, j'ai perdu... Ouais, Simone Veil, voilà, merci. Et elle faisait tout pour amener dans les tribunaux, en fait, les questions des droits des femmes. D'ailleurs, elle a fait exprès, elle était avocate, au passage, elle a tout fait pour que ça vienne dans les tribunaux et pour que ça vienne à l'Assemblée nationale et que, bah, en fait, on modifie la loi. Donc, en fait, il faut comprendre que ces combats, ils sont utiles et ils ont toujours été là pour faire avancer les droits humains, justement. Et que c'est une manière de faire ensuite prendre conscience aux gens et qu'ensuite les élus aient envie de modifier le système législatif pour aller vite.
Donc voilà. Pour faire évoluer le système. Exactement. Luc, une précision ou pas ?
Oui, donc je reviens sur ce que disait Yann. Je crois que le rôle de la désobéissance civile, en tout cas vu du point de vue de scientifiques en rébellion, c'est effectivement d'amener le débat au niveau politique, au niveau médiatique. Finalement, la médiatisation, même si parfois elle est malveillante, est intéressante parce qu'elle met... le sujet au devant, et effectivement de les amener dans les tribunaux. Et on voit qu'il y a une évolution des tribunaux. Il y a certains tribunaux qui ont des évolutions relativement négatives, où on commence, en particulier en Angleterre, la justice est assez méchante, on va dire, avec les écologistes, pour aller vite. En France, c'est peut-être un peu différent. Bon, il y a eu un procès à Grasse, là, très récemment. Les résultats ont été... Enfin, il n'y a pas encore les résultats officiels, mais enfin, les réquisitions sont relativement, entre guillemets, gentilles. Mais surtout, avec des aspects importants, par exemple sur le dernier rendu du Conseil d'État, où il y a une légitimation des actions par le monde judiciaire. Et ça, c'est une victoire extrêmement importante, même si elle est encore juste au départ. Mais ce sont des choses qui sont très importantes. Et ça légitime cette désobéissance civile, de mon point de vue, parce que ça montre que c'est quelque chose qui est effectif, qui est opératoire, pour faire en sorte que les choses avancent. Sur l'aspect non-violence, en tout cas non-violence, parce que la définition de non-violence judiciaire, c'est la non-violence par rapport aux personnes. J'ai envie de dire que si jamais, à un moment donné, on passait à des choses violentes, mais je crois que ce ne serait pas efficace, parce que l'efficacité, elle vient de la non-violence. Elle vient du fait que un certain nombre de ces actions sont quand même acceptées, même s'il peut y avoir des refus. Mais elle est à opposer à la violence qui est, entre guillemets, de l'autre côté. Quand on prend, là, on a, dans Scientifique en rébellion, un des termes qu'on emploie, c'est le terme de bombe climatique. On considère qu'il y a à peu près 425 bombes climatiques actuellement. Une bombe climatique, c'est 200 000 morts. Donc ça, il faut aussi opposer cette violence, cette non-violence que nous pratiquons par rapport à la vraie violence physique qui est portée par les pétroliers, par exemple.
Alors, j'aimerais rajouter, avant de vous donner la parole, Lyra, le fait que, à partir du moment où les choses ne vont pas assez loin, si la dégradation du climat se poursuit, on va avoir des îles qui vont être complètement inondées, il va y avoir des mouvements de migration qui vont générer des tensions, des conflits, et là, ce sont même plus que 200 000 morts, ce sont des millions de morts en perspective. Donc, quid de la possibilité d'arriver au conflit violent? Alors, nous nous sommes relativement protégés en France, mais lorsqu'effectivement les pays du Sud viendront nous dire « on a un problème du fait de vos agissements en termes de libération de gaz à effet de serre, etc. etc. », qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous préconisez?
Ce sont des choses qui arrivent déjà, par exemple en Ouganda, par rapport au projet IACOP et Tilanda, qui est donc notamment porté par Total Energy, pas que, mais notamment, les activistes sont arrêtés. De manière, alors que ce sont des activistes pacifistes. Donc nous, comme vous disiez très justement, on a de la chance aujourd'hui en France quand même d'avoir justement un glissement judiciaire vers notamment l'état de nécessité. Enfin, j'ai pas mal été dans les tribunaux ces derniers temps et en fait ce qui est mis en avant c'est l'état de nécessité et surtout la proportionnalité de l'action face à l'urgence. Et c'est en ça qu'aujourd'hui ça commence un peu à bouger. On a eu des durcissements sur d'autres sujets, notamment les tarmacs d'aéroports. Ça a été par exemple un durcissement au niveau législatif. Mais par rapport à l'état de nécessité et à la proportionnalité des moyens engagés par les activistes face à l'urgence, souvent ça va dans le sens des activistes. Par rapport à ce que vous dites, ça existe déjà. Et le nombre d'activistes tués, je crois qu'il y a eu plus d'une... Chaque année, c'est plus d'une centaine qui sont tués pour des raisons d'activisme, notamment en Amazonie, auprès des peuples autochtones qui défendent leurs terres, c'est quotidien. Nous, on a la chance en France que ce ne soit pas encore le cas, je mets des guillemets, mais on a un devoir de porter cette voix-là. Les scientifiques ont un devoir de porter ces voix-là, les citoyens, les citoyennes ont un devoir de porter cette voix-là, et je pense que sans se superposer et prendre la place de ces personnes-là, ils nous demandent de l'aide régulièrement, notamment dans les campagnes qu'on peut faire contre Total Energy pour l'Ouganda. C'est international, on échange entre activistes, entre pays, et c'est de notre responsabilité en tant qu'activistes de faire porter la voix des personnes qui aujourd'hui sont un peu bâillonnées à l'autre bout du monde.
Je crois qu'on pourrait multiplier les exemples, effectivement, mais il faut qu'on avance. Malheureusement, le temps court. J'aimerais vous questionner respectivement tous les trois sur les perspectives que vous voyez. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous êtes pessimiste, plutôt optimiste? Quelles sont les urgences que vous voyez, Yann?
Ok, comme c'est assez facile d'être pessimiste, je vais essayer d'être optimiste. C'est-à-dire que... En fait, moi, j'ai l'impression que l'arme principale qu'on peut opposer face au technocapitalisme, enfin, il y a plein de mots, on peut mettre plein de mots, aux intérêts financiers, c'est l'intelligence et la coopération et la clairvoyance, quoi. Parce que, en fait, Regardez, on citait l'exemple de ACOP, là, le pipeline de Total. J'ai lu encore dans le petit livre d'Hugo Viel qu'ils ont réussi à faire qu'il y ait 21 compagnies d'assurance et 15 banques, je crois, qui se désolidarisent du projet et qui refusent de financer le projet. Donc Total, il lui manque 10 milliards d'euros pour financer son projet. Donc en fait, pour dire que ça marche, l'action, ça marche en fait. Et c'est ça qui est important. Et en fait, quand elle est légitime, il y a un moment, la vérité éclate, quoi. Et en fait, c'est ça qui est, c'est pour ça que moi, j'encourage les citoyens à s'engager, en fait, au maximum, à prendre conscience eux-mêmes de, à regarder le monde tel qu'il est, pas tel qu'on veut leur vendre dans les médias ou ailleurs, et à regarder le monde tel qu'il est, à vraiment faire preuve de clairvoyance, de trouver les solutions les plus fines, et puis de fonctionner collectivement pour le bien commun. C'est-à-dire de, ben, j'y crois encore qu'on peut peut-être se mettre tous autour de la table, même entre gens qui sont pas d'accord, même que ce soit à l'échelle d'une ville, d'un pays, ou là, dans les COP, c'est au niveau international, de tous les pays du monde, et discuter, voilà, pour arriver à faire, à trouver les solutions qui sont les meilleures pour la vie sur Terre, en fait.
Lyra, Luc, en quelques mots, vos perspectives?
Je plus sois tout ce que diront mes camarades de toute façon, mais on parlait aussi de créer des imaginaires et la création d'imaginaires désirables pour le futur, on peut tous le faire et je pense que ça va passer par là. Lorsque en effet la solidarité deviendra quelque chose de positif aux yeux des gens, peut-être qu'on arrivera aussi à avancer et en effet ça fonctionne. Après moi je suis peut-être un peu plus dans la facilité, c'est-à-dire dans le pessimisme, mais on va dire que, en tout cas, les revendications qu'on peut avoir de travailler au niveau, en fait, d'être ce qu'on veut pour l'avenir. Donc, c'est ce qu'on fait chez Extinction Rebellion. On essaye entre nous, entre organismes, entre activistes, de représenter ce qu'on voudrait du monde, c'est-à-dire solidarité, de la culture régénératrice, donc se régénérer nos rapports au pouvoir. Tout est lié, et je pense que au moins déjà, ça passe par nous. Ça peut être un premier pas intéressant.
Et Luc, pour terminer.
Ni optimiste, ni pessimiste, mais mes camarades seront d'accord, déterminés à faire passer la parole scientifique, pas parce que c'est une parole d'autorité, mais parce que c'est une parole opératoire, c'est quelque chose qui fonctionne. Déterminés en tant qu'organisation à travailler avec nos camarades pour faire avancer des choses. Et je suis assez d'accord, enfin même tout à fait d'accord avec ce que disait Lyra sur les solidarités. Et je citerai quasiment tout le bouquin de Pablo Servigne où il a montré que dans des cas de catastrophes, alors on va vers des catastrophes peut-être un peu lentes, mais enfin sur des cas de catastrophes, c'est la solidarité qui prime et qui arrive de façon naturelle. Et pour encourager cette solidarité, ce qu'il faut, c'est que on soit déjà dans une société où qu'on travaille à faire une société où les gens travaillent beaucoup ensemble, qui a un aspect social très important. Et donc ça, plus le fait de travailler de façon simple avec les petits gestes, c'est quelque chose qui va nous faire aller vers la bonne direction et faire en sorte que notre monde devienne un peu plus vivable.
Eh bien, je vous remercie tous les trois. Nous allons terminer cette émission par une troisième pause musicale, Asi Bonanga de Johnny Clegg.
La pecora, la prefelicona. Oh, the sea is cold and the sky is gray. Look across the island into the bay. We are all islands till comes the day. The burning water. Across the sea. distance between you and me.
Nous terminons notre émission Parlons des droits humains, consacrée ce soir au thème Urgence climatique, COP28, bilan et perspectives, avec Lyra d'Extinction Rebellion, Yann Salagnon d'Alternatiba et Luc Denner de Scientifique en Rébellion. Un dernier mot en conclusion pour un message ou un petit mot à faire passer à nos auditeurs, Yann ?
Moi, je les encouragerais en 30 secondes à s'engager, à vraiment se bouger, se lever de leur chaise, de leur sortir de leur voiture et vraiment se bouger et venir dans les organisations, quelles qu'elles soient, Alternatiba, XR ou Scientifiques en Rébellion ou d'autres, et participer aux événements et à mettre la pression quoi, pour que les choses changent. Par exemple, à Alternatiba, on organise un tour à vélo 2024 qui va être un grand événement national à l'été 2024. Donc voilà, vous pourrez regarder sur le site et rejoindre les organisateurs, par exemple.
Merci. Lyra ?
Oui, en fait, il y a de la place pour tout le monde, quelles que soient les compétences. On n'est pas obligé de se gluer à une voiture pour agir. On parle en connaissance de cause, mais voilà. Donc, il y a des compétences pour tout le monde, que ce soit même au niveau juridique, si vous avez de l'aide à apporter. Voilà, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Pour le site web, il y a les actions et les formations et les accueils. Voilà.
Luc.
Alors, pour les scientifiques qui nous écoutent, rejoignez Scientifiques en Rébellion. Et puis pour tous les citoyens, continuez à faire votre tri de déchets, continuez à utiliser le vélo, continuez à faire un tas de choses de ce type-là, parce que c'est des choses qui fonctionnent. Et puis parlez-en à vos élus, faites en sorte que dans votre commune, dans votre quartier, tout ça, ça bouge. On sera là derrière vous pour que globalement, on aille dans la bonne direction.
Merci à vous trois et j'invite tous nos auditeurs à aller sur vos sites pour trouver le maximum d'informations. Ils sont clairs et on peut trouver beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, vous pouvez réécouter cette émission en la téléchargeant sur le site d'Agora Côte d'Azur et elle sera par ailleurs rediffusée le lundi 5 février à 21h. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission Parlons des droits humains qui aura lieu le lundi 19 février. Nous parlerons du thème de la pauvreté aujourd'hui en France. Merci à tous et à bientôt.